Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marianne durant la case.
Jean-Noël Jeannenet, vous êtes le président des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, dont c'est la 12e édition cette année en octobre 2009. Et nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Canal Académie.
Plaisir partagé.
Pour nous présenter cet événement, ce rendez-vous incontournable qui va se dérouler du 8 au 11 octobre. Alors, à peu près entre 25 000 et 30 000 personnes se pressent chaque année à Blois.
C'est le chiffre, en effet.
Pour suivre pendant 4 jours des conférences d'histoire, des débats, des rencontres. C'est un succès désormais installé, devenu donc au fil du temps le rendez-vous des historiens et de leur public. Blois est aux historiens ce que Saint-Dié est aux géographes, l'occasion de réunir ceux qui écrivent l'histoire, ceux qui enseignent l'histoire, ceux qui l'apprennent et enfin tout simplement ceux qui l'aiment. Alors chaque année, le comité scientifique des rendez-vous de l'histoire propose un thème fédérateur à toutes ces conférences, à tous ces visiteurs, ces universitaires. Et cette année, c'est le thème du corps dans tous ses états qui a été choisi. Est-ce que vous pouvez nous dire comment et pourquoi ce thème s'est-il imposé cette année à l'ensemble du comité ?
Je ne vous cache pas que le conseil scientifique que je préside est toujours parcouru par de violents débats, de vives controverses, toujours très amicales naturellement, mais pas avant qu'un sujet ne surgisse. Et cette année, celui-ci s'est imposé. Il s'est imposé, je crois, pour deux raisons. D'abord parce que nous tenons toujours à ce que le thème puisse parcourir toutes les périodes de l'histoire, de façon à ne pas faire converger la curiosité seulement sur l'histoire contemporaine ou sur l'histoire du Moyen-Âge. Et puis aussi parce que c'est un sujet qui a été très largement exploré depuis, disons, une vingtaine d'années. Et je songeais, au moment où nous l'avons adopté, tous ensemble, je songeais à la surprise qui aurait été celle de mes maîtres, des professeurs de la Sorbonne, quand j'y étais dans les années 1960, commençantes, à voir qu'on pouvait s'intéresser à de pareils sujets. On était très très loin de la question d'Orient et des rapports diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et la France dans l'entre-deux-guerres. Et je me disais qu'ils auraient vraiment été peut-être intéressés d'ailleurs, mais stupéfaits. Pierre Renouvin, Yves Renoir, tous nos maîtres de l'époque, Henri Maroux, à voir qu'on pouvait s'intéresser à des sujets tels que la torture, le corps qui souffre, la maladie, on commençait à s'y intéresser. Mais le plaisir physique, voir un livre aussi magnifiquement riche d'émotions, de finesse, de sagesse que le livre de Corbin qui vient de paraître, L'harmonie des plaisirs. Alors là, je crois qu'il serait resté muet de stupéfaction, tant il était clair que toutes sortes de sujets de la vie quotidienne échappaient à leur curiosité. Le corps dans tous ses états, oui, traiter sujet, c'est vraiment rendre hommage à des travaux de toutes sortes qui ont été développés. Et vous voyez bien qu'un thème pareil permet de prendre en écharpe beaucoup des domaines de l'histoire.
Depuis quand à peu près les historiens sont emparés de ce thème?
Je pense qu'on peut dire deux ou trois décennies. Tous les historiens des sensibilités, l'historien des sentiments, l'historien du plaisir, l'historien de la douleur. L'historien du sport aussi, l'histoire du sport, je vous assure que c'était considéré avec beaucoup de condescendance il y a 30 ans. Et maintenant, on s'est aperçu que c'est un sujet magnifique, illustré notamment par les travaux de Georges Vigarello, qui aura un rôle éminent à jouer à Blois cette année. L'idée que le sport, ce n'est pas seulement quelque chose d'anecdotique qu'on abandonne aux lecteurs épisodiques de l'équipe, mais que ça permet d'aller profondément, d'atteindre des sujets comme ceux des relations entre les sensibilités collectives, les stéréotypes, les passions politiques autour des matchs, la sociologie des auditeurs, les financements aussi de cette activité si importante. Et du même coup, on est comme toujours renvoyé à d'autres époques. Parce que quand on s'intéresse aux achats extrêmement coûteux des joueurs de football, j'ai vu que Chelsea, le club anglais avait acheté pour près de 70 millions d'euros plusieurs joueurs. On est renvoyé très directement à ce qui se passait chez les anciens, au temps des Grecs ou des Romains, où il y avait les rouges et les verts, les équipes d'un côté ou de l'autre, et où les vedettes de la course ou du lancer de poids étaient évidemment extraordinairement connus et s'achetaient eux aussi à grands coups de concurrence d'argent d'une cité à l'autre. Alors vous voyez que tout ça ouvre très vite des perspectives passionnantes.
Alors l'idée c'est de comprendre ce que représente le corps aujourd'hui. Ça n'est quand même pas évident parce que c'est un objet d'étude un peu ambigu quand même.
Ambigu pourquoi ?
Ambigu dans le sens où aujourd'hui le corps est absolument partout dans notre société. Non pas ambigu au sens où on ne peut pas se l'approprier et ne pas l'étudier. Puis parce que les choses évoluent et qu'on a aujourd'hui un rapport au corps qui a changé.
Certes.
Et je pense là au débat soulevé par Sylvia Nagasinski. Et si autrefois on considérait aussi notre corps comme une totalité, un corps totalité, aujourd'hui le fait de le penser comme un rassemblement d'organes, ça nous donne un rapport au corps différent, à notre propre corps. Hein. On a... Le rapport au corps, c'est aussi le rapport à autrui. Et donc... C'est pour ça que je parlais de ce rapport ambigu. Évidemment, les historiens se sont emparés de ce sujet d'étude. Aujourd'hui, comme vous l'avez si bien rappelé, sous tous ses aspects, y compris celui de la jouissance et pas seulement de la souffrance, ce qu'il représente culturellement, etc. Et ma question, pour comprendre ce que représente le corps aujourd'hui, Blois s'est organisé autour de ces thèmes-là, de l'alimentation, de la souffrance, le corps nourri, le corps soigné. Et
oui.
Autour de ça, tout a été bâti au niveau de l'organisation. Des conférences.
Ça foisonne, vous savez, c'est foisonnant. J'ai pris quelques aspects de ce sujet, mais il y en a d'autres. Songez, vous évoquez le rapport qu'on peut avoir avec son corps. Songez à toute l'histoire de la pudeur, l'histoire de la nudité. Les hommes et les femmes ne réagissaient pas de la même façon au Moyen-Âge, dans l'Antiquité ou à l'époque moderne. Par conséquent, on débouche très très vite aussi sur la question de l'histoire de l'art, tout le domaine de la manière dont... les créateurs, les artistes, les littérateurs, les peintres, les sculpteurs, on peut aborder le corps féminin. Cela a beaucoup changé aussi, beaucoup d'une époque à l'autre. Et puis il y a aussi tout l'ensemble de ce qu'on peut appeler la maladie, le corps malade, la souffrance, la mort aussi, quand le corps se disperse. Et le regard sur la mort, est-ce que la mort est définitive ? Le thème des revenants fait partie d'une certaine façon de notre sujet. Les revenants, ils reviennent depuis toujours, hein, en tout cas dans l'esprit des gens. Et jusqu'aux vampires d'aujourd'hui.
Je vais citer quelques thèmes de conférences.
Je vous en prie.
Une conférence sur le corps vieillissant, sur la production des corps, évidemment, par Sylvia Nagasinski, sur religion et tabou alimentaire.
La religion et le corps,
c'est la religion et le corps,
hein,
sur les héros, bien entendu, et les top modèles, sur l'histoire des sens, le corps comme premier lieu d'observation. Pour donner un petit exemple des multiples conférences qui vont avoir lieu à Blois pendant ces 4 jours. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans l'organisation du salon ? Il y a toujours habituellement le salon du livre d'histoire.
Qui est présidé cette année par Amin Maalouf.
Et puis un cycle cinéma, cette année présidé par Claude Lanzmann. Et puis ces conférences et ces débats qui se déroulent dans la Halle aux Grains et dans de multiples endroits de Blois. Est-ce qu'il y a une autre organisation prévue ou pas ? Quelques événements liés au rendez-vous d'histoire de Blois de cette année qui se surajoutent ?
Ce qui frappe, c'est la profusion.
Oui.
C'est la rançon du succès. En effet, après toutes ces années, étant donné l'importance que ce rendez-vous a pris pour les historiens, comme vous le disiez, et pour le public, dans un pays qui, heureusement, continue de s'intéresser beaucoup, beaucoup à l'histoire, plus que d'autres pays du monde... Cette profusion frappe, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent venir et que nous en sommes arrivés, pour reprendre une expression que le Festival d'Avignon a popularisée, à opposer le in et le off. Le in, c'est tout ce que les organisateurs du festival, des rendez-vous, emmenés par l'admirable directeur général qu'est Francis Chevrier. Tout cela est fait pour illustrer le sujet que nous avons choisi. Puis autour surviennent beaucoup de demandes, de candidatures, de gens qui ont envie de profiter de ce rassemblement pour faire connaître leurs recherches, piquer les curiosités, éclairer tel ou tel domaine qui les passionne. Et nous n'avons pas de raison, effectivement, de refuser leur venue. Mais alors, du coup, il y a une offre plantureuse, et je crois que les aficionados des rendez-vous arrivent pleins de gourmandises et repartent à la fois très heureux et un petit peu frustrés de ne pas pouvoir assister à tout. Mais c'est la règle du jeu. Et après tout, un peu de frustration, c'est la certitude qu'on aura envie de revenir l'année suivante.
Est-ce que les rendez-vous de l'histoire de Blois ont fait des petits à l'étranger ?
Une autre conséquence de ce succès dont nous parlons et de ce rayonnement des rendez-vous de l'histoire de Blois, c'est que d'autres pays, et c'est un bel hommage, ont souhaité avoir aussi leur rendez-vous. Depuis d'assez nombreuses années, on a organisé des rendez-vous de l'histoire au Maroc, ils sont animés naturellement par les universitaires de ce pays, mais où le savoir-faire de Blois a été souvent sollicité et où nous sommes présents. De la même façon, cette année vont se développer des rendez-vous de l'histoire à Weimar. En Allemagne, une ville évidemment où a été signée la Constitution d'après la Première Guerre mondiale et qui demeure un peu symbolique d'un premier effort inabouti, certes, mais très honorable pour que l'Allemagne aille vers la démocratie, la République de Weimar. Par conséquent, ce lieu est aussi symbolique. Il est trop tôt pour en parler en détail puisque la chose n'a pas été réalisée.
Mais ça si va être la première
mais,
fois.
Mais si vous me réinvitez l'année prochaine, on peut toujours rêver, j'aurai sûrement l'occasion de vous en faire le bilan.
Voilà, donc une première à Weimar avec un thème audacieux de leur côté, c'est « Osons la démocratie ».
Justement, ce n'est pas par hasard
pas, voilà,
à Weimar. Ils l'ont assez bien osé, il faut dire maintenant, depuis plusieurs décennies, nos amis allemands, dont nous avons tellement besoin pour construire l'Europe. Mais ce n'est qu'une parenthèse.
Sur ce thème du corps dans tous ses états, dont les historiens sont emparés depuis un moment, d'autres disciplines de sciences humaines, évidemment, s'occupent du corps. Les sociologues, les anthropologues, les sémiologues se sont penchés sur ce beau sujet. Comment articuler justement toutes ces différentes approches des sciences humaines au rendez-vous de l'histoire de Blois ?
Vous savez, un des grands charmes de la discipline qui est la nôtre, et c'est une des raisons pour lesquelles nous la chérissons, c'est qu'il lui est impossible, même si elle en était tentée, de s'enfermer sur elle-même. Parce que l'histoire, ce n'est pas une science, c'est une discipline. C'est une manière de prendre dans la longue durée un regard, de développer un regard sur ce qu'est l'histoire de l'humanité. Alors forcément, elle est amenée à la pluridisciplinarité. On y a été conduit bien avant que le mot même ait été proposé aux universitaires et au monde intellectuel. Cela remonte à l'époque des annales, par exemple.
Oui, bien
l'époque
sûr.
Des annales qui s'intéressaient beaucoup déjà aux sensibilités, à la religion, au comportement des uns et des autres, à l'histoire de l'opinion publique, par exemple, qui était un de nos thèmes.
Oui.
Qui était un de nos thèmes, c'est le thème de 2007. Donc, il y a ce contact permanent, ce commerce au sens ancien du terme, qui est essentiel entre l'histoire et les autres disciplines. Et d'ailleurs, si vous reprenez les noms des quatre personnalités que nous avons mises en exergue, qui ont accepté de venir honorer ces rendez-vous de leur présence et de leurs compétences, aucune n'est véritablement un historienne. Le conseil scientifique que je préside est essentiellement constitué d'historiens, c'est normal, pas complètement. Mais en revanche, si vous prenez Françoise Héritier, qui est présidente du festival, professeur
au Collège de France,
comme vous savez, qui est une grande spécialiste de l'anthropologie, du développement des sociétés primitives, qui est une ethnologue africaniste de premier rang, un premier rang international, ce n'est pas à proprement parler une historienne. Sylvia Nagasinski, une philosophe qui a affirmé sa compétence et les effets positifs de son imagination et de son travail. Elle est agrégée de philosophie, comme vous savez, c'est une élève notamment de Jacques Derrida. Amin Maalouf, c'est un remarquable romancier qui est libanais, il est de la minorité chrétienne melkite du Liban. Et ce romancier, nous l'avons convié à présider le Salon du Livre. C'est un autre exemple. Vous savez, faire de l'histoire sans s'intéresser à la littérature,
c'est impossible.
C'est vraiment impossible et ce serait vraiment être devenir borgne. Hein. Et puis enfin, Claude Lanzmann, qui a été remis au premier rang de l'actualité intellectuelle par la publication de son beau livre de mémoire, Le Lièvre de Patagonie. Et ben c'est Claude Lanzmann, je crois qu'il détesterait que je le définisse. Mais enfin, c'est un homme de création cinéma, avec grand œuvre de la Shoah. C'est un journaliste au sens le plus noble du terme, disons plutôt un publiciste, puisqu'il dirige les temps modernes. Il a été proche de Jean-Paul Sartre et de Simone Beauvoir. Bref, il nous apporte aussi un autre éclairage important. Vous voyez à quel point nous sommes peu égocentriques.
Mais j'ai l'impression que ces rencontres existent à Blois et ne sont pas forcément le juste reflet des enseignements de l'histoire en France, même si les universitaires s'ouvrent et depuis longtemps. Mais là, on a un petit peu un lieu exceptionnel qui permet à toutes ces différentes personnalités et de ces différentes disciplines de se croiser. Pour le public amateur, c'est l'occasion de voir l'histoire dans tous ses états.
C'est justement un magnifique public, magnifique public que nous avons appris à aimer, qui est curieux, attentif, souvent critique comme il est naturel, mais qui est porté par une affection pour l'histoire qui est vraiment touchante. Et si nous avions quelques jours un peu d'incertitude sur notre vocation, nous en serions absolument et aussitôt débarrassés par eux. Alors vous me parlez du de l'enseignement, il y a effectivement beaucoup d'enseignants qui viennent se ressourcer, mais pas seulement des enseignants, beaucoup d'enseignants du secondaire, professeurs d'école sûrement. Est-ce que Blois reflète l'évolution de l'enseignement de l'histoire ? Vous savez, l'enseignement de l'histoire, il exige une constante attention, il appelle une constante préoccupation, parce qu'il y a toujours des tendances, des contemporanéités successives à dire à quoi bon regarder en arrière, on ne gouverne pas avec regardant le rétroviseur, etc. Ce qui est absurde, il n'y a pas de société équilibrée, il n'y a pas de démocratie solide sans qu'elle s'enracine dans une connaissance du passé à hauteur de la population, des citoyens et à hauteur des hommes d'État également. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc il est évident que c'est essentiel. Vous voyez, les menaces ne sont pas d'aujourd'hui. Dans les années 80, déjà, on avait vu une improbable rencontre entre Michel Debré, Fernand Braudel et Alain Decaux pour défendre l'histoire au lycée. Je ne crois pas que c'est corporatiste de dire cela. Je ne crois pas. Simplement, il y a toujours un danger parce que d'autres disciplines essayent de faire leur chemin. Mais c'est une occasion aussi souvent de définir la situation à Blois. L'année dernière, le ministre Darcos avait envoyé M. Nambrini, un des inspecteurs généraux éminents, pour venir rassurer sur une éventuelle diminution du caractère obligatoire de l'enseignement de l'histoire dans le secondaire. Il faut sans cesse rassurer, il faut sans cesse affirmer cette nécessité. Blois, si éclatant, ce rendez-vous si éclatant, sont une occasion de le dire et aussi de jouer un rôle de groupe de pression sur les pouvoirs publics, au sens le plus noble du terme. Il y a des lobbies qui sont peu ragoûtants. Celui-là est légitime, vous ne me contredirez pas, quitte à diminuer le feu de notre conversation. Alors je voudrais vous dire une dernière chose, c'est qu'évidemment, ces rendez-vous de l'histoire ne peuvent pas trouver tout leur éclat et affirmer toute leur puissance sans le soutien des collectivités locales, régionales. La ville de Blois, c'est Jack Lang qui avait, quand il était maire, lancé cette idée. Il faut toujours lui rendre hommage. Et ses successeurs ont également soutenu la mairie de Blois, le conseil général, le conseil régional. C'est une expression, je crois, tout à fait symptomatique et très, très positive de ce que désormais les instances décentraliser les instances régionales dans ce pays peuvent faire pour la culture. La culture n'est plus jacobine comme elle est désormais décentralisée, même si Paris, et je parle à Paris qui est de Conti, même si Paris, bien sûr, garde son rôle essentiel et éminent. De ce point de vue-là aussi, je crois que Blois représente une évolution heureuse.
On a une petite idée du thème pour l'an prochain ?
Mais c'est encore secret. Ce sera annoncé à Blois, et par conséquent, vous ne voudrez pas
de ne pas le dévoiler.
Il n'est pas mauvais de faire un peu de piquer un peu la curiosité.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Noël Jeannonet.
Merci de votre accueil.